Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, ses associations et ses structures. Aujourd'hui, nous sommes avec la directrice de l'ENCP, école qui offre une formation pour devenir coach sportif notamment et qui ouvre un campus au Mans. Puis on réécoutera Timéo Lebas, jeune karatéka qui a obtenu sa ceinture noire à l'âge de seulement 16 ans, accompagné de son entraîneur. Tout de suite, on commence avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
L'ENCP ouvre un campus au Mans. Alors, l'ENCP, c'est une école de formation au métier du sport spécialisée dans le fitness et fondée par l'Orange Bleu. Les candidatures sont ouvertes pour intégrer l'école dès la rentrée de septembre 2025. Bonjour Anne Barbedette.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ENCP. L'école est déjà basée sur Rennes, où elle a son siège, mais aussi à Brest, Caen, Lorient et Marseille. Et donc plus récemment, au Mans. Alors, où va se situer exactement ce nouveau campus?
Alors, ce campus va se situer près de l'Orange Bleu, en Tarès. Pour l'instant, on est effectivement en partenariat avec le club l'Orange Bleu. Et on a nos locaux théorique près du concessionnaire Suzuki.
Et pourquoi en fait avoir installé un campus sur Le Mans? Pourquoi avoir choisi cette ville pour s'installer?
Alors aujourd'hui, l'ENCP a une stratégie de développement qui a pour objectif d'accompagner notamment une marque, le réseau L'Orange Bleu. Donc on s'installe là où il y a aussi un bassin d'emploi fort pour nous, puisqu'on forme au diplôme d'éducateurs sportifs et notamment sur un diplôme professionnel. Donc il est très important pour nous de s'implanter sur un bassin où il y a de l'emploi, et il se trouve que effectivement en Sarthe il y a plutôt de l'emploi et des pénuries d'éducateurs sportifs sur le secteur.
Et pourtant à l'Université du Mans il y a déjà une formation STAPS pour former au métier du sport. Qu'est-ce qui va distinguer votre formation alors?
Alors nous, on est une formation aussi dans le secteur du sport, mais sous un autre ministère, sous le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec une spécificité, c'est que on forme à des spécialités. Les staffs sont plutôt des généralistes de l'éducation physique, et nous, on est sur des BPJEPS, c'est anciennement des BE, et on forme à des spécialités, donc il y a un certain nombre de spécialités, et pour le coup, l'ENCP est spécialiste des activités de fitness et de remise en forme.
Vous proposez cette formation au diplôme BPJEPS, activité de la forme. En quoi elle consiste en fait, cette formation? J'ai cru comprendre qu'il y avait de la théorie et de la pratique. Comment ça se complète en fait?
Oui, donc c'est une formation qui est en alternance, donc à la fois en entreprise et à la fois en centre de formation, en organisme de formation. Et effectivement, c'est une formation qui est très axée pratique, puisqu'on est sur une formation hyper professionnalisante, on est sur un brevet professionnel, et comment ça se découpe en quatre UC, ou blocs de compétences maintenant. Deux UC techniques, très techniques, donc c'est-à-dire de la musculation, du cours collectif et de la pratique entre autres, et des UC un tout petit peu plus théoriques, notamment autour des enseignements scientifiques comme l'anatomie, la physiologie, la prépa physique, etc.
Et donc pour la pratique, les étudiants pourront utiliser les infrastructures du centre Orange Bleu de Le Mans Sud, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Quand en général, on a une stratégie par étape, c'est-à-dire que quand on arrive sur une ville, on essaye de profiter aussi des infrastructures de notre partenaire, donc là en l'occurrence l'Orange Bleu, et puis progressivement on monte une salle école, c'est-à-dire une salle de pratique uniquement réservée à l'école dans un deuxième temps. Donc c'est prévu pour septembre 2026. C'est ce que l'on a fait déjà à Caen, à Brest, à Lorient. C'est-à-dire que c'est des salles qui sont uniquement dédiées à la formation.
Alors la formation, elle est en alternance, ça implique de trouver une entreprise. Est-ce que l'ENCP assiste les étudiants dans cette démarche?
Complètement. C'est aussi pour ça que notre stratégie, elle est aussi réfléchie dans les lieux qu'on choisit, puisque on s'appuie d'abord sur les entreprises. C'est-à-dire que la volonté, c'est de pas mettre de la formation parce qu'il n'y a que des étudiants, c'est d'abord de mettre de la formation pour accompagner les entreprises. Donc là où il y a de l'emploi, là où il y a des pénuries, on vient apporter le service formation aux entreprises et puis après on communique sur le métier et on vient recruter des étudiants.
Et donc le BPJEPS, c'est un diplôme reconnu par l'État. Quelles sont les conditions d'accès à cette formation? Est-ce qu'il y a un examen à passer?
Alors oui, tout à fait. C'est la particularité des diplômes du ministère Jeunesse et Sport, c'est qu'il y a un certain nombre de prérequis, notamment le premier qui est un petit dossier avec certains documents, dont l'examen des premiers secours, le fameux PSC1. Et puis ensuite, il y a les tests physiques. Ce sont ce qu'on appelle les tests d'exigence préalable, qui sont des tests physiques. Voilà, où on leur demande de faire un luc léger, on va leur demander aussi des exercices de musculation et un suivi de cours collectif de manière à évaluer leur niveau de pratique minimal et de pouvoir être sûr qu'on puisse les accompagner correctement jusqu'au diplôme.
Et donc vous nous disiez que les chances d'embauche en tant que coach sportif, elles sont importantes à l'issue de la formation. Est-ce que c'est seulement d'ailleurs coach sportif le métier sur lequel on débouche ou il y a plusieurs possibilités?
Non, il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités. Alors sur le métier propre d'éducateur sportif, il y a énormément d'emplois aujourd'hui. Alors il faut à minima être un petit peu mobile, il n'y a pas forcément toujours de l'emploi au pied de sa porte, mais en étant un petit peu mobile, même rien que sur le département ou la région, il y a énormément d'emplois. Et puis après, il y a énormément d'évolutions. C'est un diplôme de niveau bac, mais qui est hyper professionnalisant et qui permet quand même plein de passerelles, notamment des passerelles vers de la formation, vers de la prépa physique, vers du sport santé, vers de l'accompagnement au vieillissement. Il y a un tas d'évolutions et de passerelles dans les métiers du sport en général qui peuvent être accessibles grâce à un BPJEPS qui est un diplôme très technique.
Et on peut suivre la formation de deux manières, soit en apprentissage, soit en stage alterné. Qu'est-ce que ça change en fait concrètement?
Alors, c'est juste la modalité de financement, puisque l'apprentissage, c'est une modalité de financement où c'est l'entreprise qui va investir dans un jeune pour le former, pour l'accompagner et qui va financer sa formation et qui donc va être rémunéré puisque c'est un salarié. Et puis le stage, c'est plutôt orienté sur des publics qui sont des fois plus âgés puisque l'apprentissage est accessible que jusqu'à 29 ans. Donc c'est plutôt pour des publics un peu plus âgés qui veulent faire des formations un peu plus courtes aussi. Notre formation en stage est plus courte et qui souhaitent avoir une autre démarche personnelle plus rapide, souvent dans la reconversion.
Oui, et donc effectivement, cette formation, en tout cas, elle a un coût. Il y a des aides possibles, du coup?
Oui, tout à fait. Alors, on peut accéder à la formation via le CPF, par exemple. Si aujourd'hui, on a un CPF à 5 000 euros de manière quasiment complète, aujourd'hui, ça couvre une bonne partie de la formation. Et puis après, il y a des aides des fois de la région, il y a des aides pourquoi pas de Pôle emploi. Voilà.
Et si on veut une formation plus rapide, parce que alors effectivement la version en stage alterné, elle est plus rapide que la formation en apprentissage, mais il y a encore une formation plus rapide que celle-là, c'est la formation de certificat de qualification professionnelle instructeur fitness. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette formation au certificat?
Oui, tout à fait. Donc c'est un diplôme, c'est un certificat qui est inscrit au RNCP aussi, qui est un diplôme d'État, mais qui est un diplôme de branche, c'est-à-dire que il est un diplôme qui a été monté par la branche professionnelle du sport et qui est encore plus professionnalisant que le BP. C'est-à-dire que le CQP a pour objectif vraiment d'accompagner, alors là pour le coup, encore plus à la reconversion, mais on a des prérequis un tout petit peu plus exigeants puisque là ce sont vraiment des gens qui sont des passionnés du fitness, qui pratiquent depuis déjà quelques années et qui veulent un format très court. Ils veulent venir chercher une expertise très très précise et surtout une carte pro qui leur permettra d'exercer leur passion en tant que coach sportif, en tant que professeur de yoga, professeur de pilates, etc.
Oui, donc il y a des cas où il vaut mieux privilégier la formation au certificat plutôt que le diplôme BPJEPS du coup.
Mais oui, tout à fait. Alors c'est pour ça qu'il est hyper important de pouvoir bien préparer finalement son projet professionnel. Et puis nos conseillers formation sont là vraiment pour guider les gens vers la bonne lecture de ce qu'ils souhaitent faire, la bonne lecture de leur aussi de leurs compétences déjà acquises et pour les orienter vers le bon diplôme et ensuite les bons modes de financement. La formation professionnelle en France est très riche, elle est aussi très complexe quand on n'y connaît rien. Et c'est pour ça vraiment, il faut pas hésiter à avoir une démarche aussi de comment se laisser accompagner, avoir une démarche de recherche assez active, parce qu'il y a plein de possibilités de se former dans le milieu du sport. Voilà aujourd'hui et on est là pour ça aussi, pour accompagner à la fois en amont et puis en aval après la formation. Pour l'emploi.
Et toujours pour se spécialiser davantage, le NCP propose d'autres formations vraiment de spécialisation. Quels domaines par exemple sont proposés sur des formations de plus courte durée du coup ?
Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'avant le diplôme, nous aujourd'hui on forme au diplôme donc avec notre école et puis on a aussi après le diplôme un certain nombre de formations qu'on peut effectuer pour se spécialiser. Je vous parlais tout à l'heure du pilates, je vous parlais du yoga, je vous parlais du coaching individuel. Voilà, ce sont des méthodes, ce sont des techniques qui permettent aussi aux coachs de se renouveler, d'évoluer, de progresser. Ça, ce sont des formations qu'on peut proposer après le diplôme. Il y a des prérequis sur ces formations, c'est d'avoir la carte pro. C'est-à-dire que, comme on est en emploi réglementé, en France, tous les éducateurs sportifs ont une carte pro qui leur donne des prérogatives. On ne peut pas enseigner sans cette carte pro contre rémunération. Et donc, ça, ce sont des prérogatives. Mais après, le diplôme, il y a un volume et énormément de petites formations qui permettent d'accompagner, d'aider à la professionnalisation, d'aider à l'employabilité pour pouvoir mener sa carrière de front.
Et alors enfin, Anne Barbedette, où peut-on se renseigner et candidater ? Jusqu'à quand les candidatures sont possibles ?
Alors, on peut se renseigner au numéro de téléphone de l'ENCP ou sur le site internet, évidemment. Du coup, je vais rappeler le numéro de téléphone, le 02 99 30 06 81. Et puis, sur le site internet, par mail aussi, à formation.ob@encp.fr. Et effectivement, alors les candidatures sont ouvertes. Nous, on accompagne les jeunes jusqu'au bout, dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire qu'importe le moment où le projet démarre dans leur tête, il faut pas s'arrêter simplement aux ouvertures et aux fermetures d'inscription, puisque toute l'année on peut offrir une proposition de formation qui sera adéquate.
Mais du coup la première rentrée pour l'ENCP du Mans, ce sera en septembre 2025. Là on peut candidater pour cette rentrée là dès maintenant.
Dès maintenant il y a des candidatures, dès maintenant on a des dossiers d'inscription et effectivement il faut, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ces fameux TEP. Donc, c'est l'exigence. Il va falloir passer ces TEP. Donc, en général, on a des TEP tout l'été. Donc, ce qui permet encore de préparer son dossier et son projet.
Radio Alpa, l'alternative.
De retour dans Sport en Sarthe et on passe à notre deuxième sujet pour cette émission. Un jeune de 16 ans a obtenu sa ceinture noire de karaté. Il s'agit de Timéo Lebas du club La Patriote de Bonnétable. Il est à notre micro pour nous raconter son parcours et sa passion pour cet art martial. Et il est accompagné de son entraîneur Stéphane Rabot. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors félicitations d'abord Timéo pour cet exploit. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu es entré dans le karaté en fait ?
Eh bien je suis entré dans le karaté à l'âge de 5 ans, au baby karaté. Ça m'a tout de suite plu, pas seulement qui m'a inscrit justement. Pourquoi le karaté ? Eh bien c'est parce que ça permet déjà de se gérer, ça permet d'avoir une certaine maîtrise de soi. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on apprend plein de techniques et c'est pas forcément que le côté physique qui est intéressant, c'est aussi le côté mental et de développer le sens de gérer son corps. Donc c'est ça qui est très intéressant dans le karaté.
Ok, donc il y a toute une discipline qui va avec le sport en fait, quoi, c'est ça. Et donc ça a été le coup de foudre immédiatement pour toi.
Oui. Oui, parce que directement, alors déjà j'ai eu un professeur, un an après que j'ai commencé le karaté, qui s'appelait Claude Boucabeille, qui était 8e dan, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était très très intéressant, très gradé, donc il nous apprenait beaucoup de choses. Et évidemment, on ne peut pas tout saisir lorsqu'on est ceinture blanche, jaune, mais ça nous permet déjà de développer une certaine passion pour ce sport et une certaine fascination pour tout ce qu'il y a à apprendre, donc...
Et alors, on voit assez bien en quoi le karaté se distingue du judo, mais c'est moins évident avec d'autres arts martiaux où on se sert de son corps pour frapper. Qu'est-ce qui va distinguer le karaté, par exemple, du taekwondo ou du jiu-jitsu? Qu'est-ce qui fait sa particularité?
Eh bien, déjà, le karaté, il y a une filiation déjà qui vient de... Le karaté, c'est un art martial chinois de base. Et il y a effectivement, vous voyez du taekwondo. Le taekwondo, c'est un art martial qu'on utilise quasiment que les pieds. En karaté, on utilise les pieds et les poings. Et les techniques ne sont pas forcément les mêmes. Beaucoup de techniques directes qui ont pour but de toucher l'adversaire, notamment dans le mode de compétition qui est le plus développé par la fédération.
Et alors, le karaté, c'est quand même à la base un sport de combat. Comment ça s'articule avec cette facette que tu décrivais tout à l'heure, cet aspect de discipline, de maîtrise de soi?
En karaté, on a ce qu'on appelle les kions et les katas. Alors, les kions sont un ensemble de mouvements planifiés et les katas sont un ensemble de techniques qui vont reposer une certaine mesure sur ces kions. Et les katas, nous devons les exécuter de manière la plus précise possible, c'est-à-dire ne pas bouger, les travailler de multiples fois pour pouvoir être le plus précis possible. Aussi, eh bien, ça, lorsqu'on est passionné, on va essayer de regarder les différentes variantes de ces katas pour travailler aussi l'esprit et travailler eh bien, notre mobilité corporelle pour pouvoir faire certains mouvements, parce que certains mouvements nécessitent eh bien, d'avoir une sorte eh bien, d'adresse, parce que c'est des mouvements difficiles, donc c'est tout cela qui n'est pas quelque chose de purement physique.
Et les katas, donc c'est des combats imaginaires en quelque sorte, c'est un peu chorégraphique, c'est ça?
C'est ça, c'est un ensemble de mouvements. Alors à la base, les katas ont souvent été faits par des grands maîtres de karaté. Par exemple, le kata Kushankun, qui donne Kankudai aujourd'hui, a été créé, et c'est la base de notre style de karaté, le karaté Shotokan. Et ces katas eh bien, forment toutes les techniques que nous allons utiliser. Et donc ces katas sont des décodages. L'art de décoder le kata s'appelle le Bunkai, ce qu'on passe aussi justement à la ceinture noire. Et c'est ce que nous devons faire, et c'est la manière dont nous faisons notre karaté.
Et alors ces grands maîtres dont tu parles, j'imagine que c'est des maîtres anciens qui sont peut-être morts aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des nouveaux katas qui sont créés par les maîtres contemporains?
Alors oui, il y en a aujourd'hui. Alors les maîtres contemporains...
Stéphane peuvent... Rabot, Fémine, qui ne sait pas. Timéo, toi tu estimes que si?
Alors en fait, il y a des nouveaux katas qui sont créés par les maîtres. Par exemple, dans les cadres de passage de grade, certains maîtres peuvent créer leur propre kata, mais ils ne vont pas forcément révolutionner le karaté, au sens où ce ne sont pas des katas qui vont être enseignés dans les écoles de karaté du pays.
Et alors, tu as toujours été à la Patriote de Bonnétable?
Non, j'ai commencé à La Ferté-Bernard, je suis allé au Samouraï 2000, ensuite je suis allé à Alonne et ensuite je suis revenu à la Patriote de Bonnétable pour me rapprocher de chez moi.
Ok, ça marche. Ouais, t'es passé par pas mal de clubs en fait. Alors, lors de la dernière compétition départementale, tu as fini premier dans ta catégorie. Ça t'arrive régulièrement d'être premier en compétition?
Eh bien, là j'ai arrêté justement un petit temps les compétitions, mais oui, souvent. Mais au niveau départemental notamment, j'ai fait les régionales aussi et ça m'est arrivé d'être premier en combat et en kata aussi.
Et en quoi elles consistent d'ailleurs les compétitions? Comment ça marche?
Eh bien, les compétitions de kata, donc d'ensemble de mouvements, eh bien, on va être jugé sur la technique. Donc, est-ce que nos mouvements sont rapides, fluides? Est-ce qu'on est énergique? Est-ce qu'on est motivé? Aussi, la manière dont les mouvements sont faits, donc les positions, qui doivent respecter un ensemble, eh bien, presque de figure. Enfin, c'est presque une figure géométrique. Hein. On ne doit pas forcément déplacer trop notre pied, etc. Donc, on est noté sur ça pour les compétitions kata. Et pour les compétitions combat, on est noté sur des points. Par exemple, un coup de pied à la tête, c'est 3 points. Un coup de pied dans le ventre, on y va sur les côtés, c'est 2 points. Et un coup de poing dans le ventre, c'est 1 point.
Il y a des protections quand même pendant les combats?
Oui. Alors, en junior, on n'a plus de casque, mais en tout cas, dans les catégories, lorsque je concourais, on avait des casques, des plastrons, donc ce qui protège le corps, des protèges tibia et protèges pieds, et des gants aussi.
Alors Stéphane Rabot, je me tourne vers vous qui êtes l'entraîneur de Timéo à la Patriote de Bonnétable. Comment ça se passe les entraînements avec Timéo?
C'est beaucoup de rigueur, du travail, de la sueur, beaucoup transpiré. On se voyait les samedis matins seul pour pouvoir travailler et le résultat est là.
Alors seul, mais par contre vous n'êtes qu'un de ces trois entraîneurs en fait, puisqu'il y a aussi Jackie Brunet. Et Cyril Elias, le président du club, qui travaille également avec Timéo. Pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs entraîneurs?
Là, l'histoire, c'est que Jean-Pierre Brard, le SUAC, a créé le club en 1993. J'étais un de ses premiers élèves. Est venu me chercher parce qu'il partait à la retraite. Donc j'ai repris le club de karaté de Bonnétable. Et mon ami Jackie, que j'ai fait venir, est maintenant un super entraîneur au niveau technique. Voilà, on se complémente tous les deux pour arriver à faire ce sport une passion pour nos élèves.
Et alors, j'imagine que vous êtes ceinture noire également, Stéphane Rabot?
Oui.
Et alors, vous l'avez obtenu à quel âge, vous, votre
ceinture? Moi, je l'ai eu, c'est avec Jean-Pierre Brard. Je l'ai passé dès que j'ai pris le club de Bonnétable.
Ok, voilà. Ça marche.
C'est mon prof qui me l'a fait passer.
Et alors, il y avait des objectifs concrets à atteindre pour cette ceinture noire. Comment ça marche, en fait, le passage de grade?
Bien, on a 6 UV, 6 modules à préparer. Donc on a le module kata, le module kion, donc l'ensemble de techniques que le jeune aisance de Georgie, justement. On a aussi le Juipon Kumite. Donc le Juipon Kumite, c'est deux personnes, deux partenaires, un qui va défendre et l'autre qui va attaquer en garde. Ensuite, il y a le Kion-Ippon Kumite. La même chose que Juipon Kumite, sauf que nous ne commençons pas en garde, nous commençons en position qu'on appelle yoi, c'est-à-dire debout, les mains...
Enfin, voilà. Les mains poings fermés devant soi.
C'est ouais. Ça. Pour pouvoir parler une technique. Et on a aussi le Bunkai, donc en l'occurrence, décoder le kata.
Décoder le kata, c'est-à-dire ?
Eh bien, comme je disais tout à l'heure avec les différentes techniques, eh bien, quand on fait un kata, c'est plutôt schématique. Et par exemple, si on fait un mouvement de blocage à la tête, eh bien, dans la réalité, ce n'est pas forcément ça. Ce mouvement peut aussi saisir une saisie, une clé de bras. Et donc, c'est ça, le Bunkai, c'est décoder le kata. Qu'est-ce qu'on fait avec cette technique ?
Ah, ok, d'accord. Oui, parce que ça peut être assez abstrait quand on combat dans le vide, et donc faut essayer de comprendre comment ça marche concrètement, quoi. Et alors, comment s'est déroulé l'examen pour toi ?
Eh bien, on avait du coup, alors on a, ça a duré sur 3 heures. On a fait 3 heures, on passait par 2 devant le jury. Dans ma session, nous étions 9. Et alors, comment ça s'est déroulé ? On a commencé justement par faire du kion, donc les ensembles de techniques. Ensuite, nous avons fait, eh bien, bunkai. Ensuite, juipon kumite. Ensuite, kion ippon kumite. Ensuite kata, et aussi on a fait du combat aussi, hein, bien évidemment. Donc en l'occurrence, la sans protection, pour montrer les techniques que nous savons faire.
Et Stéphane Rabot, vous faisiez partie du jury ou pas ?
Non, du tout.
D'accord, mais vous avez assisté à son passage de...
Non, pas du tout, pas assisté, parce que l'épreuve reste dans le couloir, n'ont pas accès à leurs élèves, donc...
Ah d'accord, donc, c'est vraiment... C'est un peu confidentiel en tout cas.
C'est ça, on va dire ça.
C'est un rite secret, on va dire. Alors comment fonctionnent les ceintures au karaté en fait ? Parce qu'on se perd un peu dans les couleurs, c'est quoi les différents grades jusqu'à la ceinture noire ?
La ceinture blanche tout d'abord, ensuite la ceinture jaune, ensuite la ceinture orange. Le karaté comporte aussi demi-ceintures, donc par exemple blanche-jaune, jaune-orange. Donc orange, ensuite verte, ensuite bleu, ensuite marron et ensuite noir. Mais ceinture noire, en fait on dit la ceinture noire et moi je ne suis que ceinture noire première dan.
Ça va être parce qu'il y a d'autres grades après encore.
C'est ça, deuxième dan, troisième dan, etc. Jusqu'à la ceinture noire dixième dan.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les obtenir ces dan alors ?
Eh bien d'autres techniques, apprendre d'autres kata. Pour les dan très élevés, c'est aussi une participation à la fédération de karaté, le développement de différentes branches, mais en tout cas, c'est persévérer. Et aussi, il faut avoir un âge et un temps de pratique. Par exemple, je ne peux pas passer ma deuxième dan avant 2 ans. Je peux plutôt attendre 2 ans, apprendre un certain nombre de kata, de techniques. Aussi, bah, pourquoi pas faire des compétitions pour pouvoir m'enrichir personnellement et pouvoir potentiellement passer ma deuxième dan.
Donc on ne peut pas sauter des dan alors, ça veut dire ?
Non.
D'accord.
On ne peut pas.
Même si on a fait, même si après ta ceinture noire, tu fais, disons, 6 ans de pratique sans passer un examen, tu ne pourras pas passer directement l'examen du quatrième dan, par exemple.
Non.
Ok, d'accord. Il faut vraiment tous les passer un par un. Alors, Timéo, tu as obtenu la ceinture noire à seulement 16 ans. C'est quelque chose de rare dans la discipline ?
Oui, on n'a pas forcément beaucoup de ceintures noires à seulement 16 ans. Bah, j'ai été justement dans un stage il n'y a pas longtemps, samedi dernier. Et oui, on n'était pas nombreux, on était... une autre personne qui avait 18 ans, mais sinon c'est très très rare.
Stéphane Rabot, en tant qu'entraîneur, vous avez déjà vu d'autres karatékas passer la ceinture noire à 16 ans ?
Non, du tout. Je sais qu'on peut emmener un élève à partir de 14 ans, si je ne me trompe pas, mais ça, fait quand même jeune, ça fait quand même jeune.
C'est très rare. Ouais, parce qu'il faut commencer à quel âge pour passer la ceinture noire ?
En baby karaté.
Au moins 5 ans, du coup.
4-5 ans.
Oui, ouais. C'est ça. Alors, Timéo, quels sont tes prochains projets maintenant que tu as cette ceinture noire ?
Eh bien, essayer de continuer déjà l'apprentissage du karaté qui est très très long. J'aimerais aussi faire des compétitions, justement, parce que cette année, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'aimerais bien essayer l'année prochaine de faire des compétitions kata et combat, et puis continuer à travailler mes kata, et puis me développer personnellement dans tout ce qui est bunkai, justement, mieux comprendre cette essence du kata et du karaté, parce que c'est ce qui fonde notre pratique, et puis aussi développer ma connaissance intrinsèque sur le karaté, donc eh bien lire des livres sur ce sport pour comprendre les différentes écoles, etc.
Oui, parce qu'il y a besoin aussi de connaître toute la culture du karaté pour être un bon karatéka, quoi.
Bah, je pense, oui, ça fait partie, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, essayer de comprendre les choses aussi. Donc
Et alors, est-ce que tu aurais envie de devenir entraîneur aussi, peut-être ?
Oh bah, oui, un jour, j'aimerais bien. J'ai aussi pour projet justement de passer mon DIF, diplôme d'instructeur fédéral, quand j'aurai 18 ans. Et ceci permet de donner des cours dans différents clubs, donc ce serait intéressant, et puis ça permet aussi de transmettre sa pratique. J'aimerais aussi, avant, évoluer personnellement pour pouvoir eh bien, emmagasiner du savoir que je pourrais ensuite distribuer, parce que ça, on ne peut pas forcément eh bien, distribuer savoir si on n'a pas encore acquis ou si on ne pratique pas. Donc je pense que c'est important pour moi de pratiquer, mais j'aimerais aussi potentiellement m'orienter vers l'enseignement ensuite.
Et avec ta ceinture noire déjà actuellement, tu ne peux pas assister les entraîneurs du club pendant les entraînements ?
Si, assister, c'est ce qu'on fait avec Stéphane, mais... C'est pas pareil d'enseigner et d'assister.
Oui, évidemment. Eh bien, Stéphane Rabaud, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous pensez que Timéo pourrait accéder aux championnats nationaux, voire peut-être mondiaux un jour?
Je lui souhaite, sincèrement, je lui souhaite. Il a un super niveau. Après, même très impressionnant. Donc, je pense qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour lui.
Eh bien, je vous remercie donc Timéo Lebas, jeune ceinture noire de karaté à la Patriote de Bonnétable, ainsi donc que son entraîneur Stéphane Rabaud. Merci d'avoir été avec nous dans Sport en Sarthe. Et à bientôt sur notre antenne.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir écouté cette émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Sport en Sarthe revient vendredi 9 mai et d'ici là, on se retrouve lundi 5 mai pour un nouvel épisode de C'est d'actu sur Radio Alpa, bien évidemment.